Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous. C'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être au-delà de nos différences. Alors, soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Octantrion que nous partons ce soir. Un groupe atypique, un univers singulier, c'est Octantrion. Une musique du Nord, de ces contrées magiques tant rêvées, où la sensibilité dépasse l'entendement et prend un tout autre sens. Une musique ancrée, à la fois mystique et communicative, d'une puissance qui nous atteint au-delà de nos sentiments, de nos espérances. Un nouveau monde se crée.
Bonsoir Marine.
Bienvenue dans Résonance.
Merci beaucoup.
Créatrice du groupe Octantrion, on vous retrouve ce soir pour parler musique, mais pas de n'importe laquelle. Une musique venue de loin, empreinte de symboles, de sens, c'est la musique scandinave nordique. Un alliage de sonorités quelque peu atypiques et classiques autour de talentueux musiciens, vous, Éléonore, à la nickel harpa et à la voix, Gaïdic, à la mandoline ou encore à la guitare harpe, accompagné de musiciens comme Cécile Corbel, harpiste et chanteuse, Blandine Champion et Xavier Milou, bassiste et contrebassiste, Éric Pariche, chanteur, et Julien Lahaye, percussionniste. Les musiques traditionnelles aux compositions originales, Octantrion, c'est un style à la fois suave et décidé, qui nous emporte dans un univers magique, intemporel. Un voyage au pays des rêves où l'impossible devient possible. Alors, comment pourrait-on décrire cette musique nordique, cet univers mystique, magique?
Alors, nous, je peux peut-être commencer par parler du nom Octantrion, qui fait référence au septentrion, au nord, à l'étoile polaire, au nord des poètes. Et nous, on a décidé de se servir de cette base musicale nordique et puis d'aller au-delà du nord, au-delà du septentrion.
D'accord, donc le septentrion, c'est l'image d'un sommet inatteignable, c'est ça ?
Exactement, et voilà, en mêlant nos différentes influences et nos différentes amours, voilà, on a décidé d'aller explorer un peu l'univers au-delà de ce nord.
Et cet univers, comment voilà, on peut le percevoir, le décrire par rapport voilà aux univers qu'on entend beaucoup à la radio, etc. C'est un peu particulier cette musique tout de même.
Oui, c'est un peu particulier, donc une base de musique et de chant traditionnel scandinave, donc suédois mais aussi norvégien, islandais. Et puis des accents empruntés aux musiques plus actuelles, les musiques d'où vient Gaïdic, lui le rock, le métal, voilà, créer un univers autour de ces différentes influences et puis en passant par certains accents un petit peu plus baroques aussi, moi une musique que j'ai pas mal explorée également.
Et cette musique nordique, est-ce qu'on la joue comme une musique baroque, y a-t-il des similitudes ou bien voilà, c'est complètement différent?
Alors, c'est pas complètement différent. Il y a des similitudes dans le sens où il y a toute une partie de la musique qui est une musique dansée, une musique faite pour faire danser les gens, autant dans les musiques baroques et puis pleinement dans les musiques traditionnelles. Donc, il y a quand même des ponts des ponts communs quoi entre ces musiques-là.
Et au niveau du diapason, vous êtes sur le même 440 ou vous changez dans vos musiques?
Non, nous on reste sur 440. Voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait explorer d'autres diapasons. Après, c'est toujours un peu compliqué de modifier les accords des instruments, surtout qu'on a des instruments avec beaucoup de cordes.
Et oui, alors vous, votre instrument, c'est la nickel harpa. Qu'est-ce que c'est? Voilà, d'où ça vient et...
Donc le ou la nickel harpa, c'est un instrument populaire suédois. C'est un instrument qui date du Moyen Âge. C'est pour le décrire un gros violon, une vielle à archer, avec un système de clavier qui s'apparente un peu au clavier de la vielle à roue. Voilà, donc des touches en bois sur lesquelles sont enfichées des sautereaux, des petites pièces de bois qui, quand on appuie sur la touche, viennent buter contre les cordes mélodiques et donc changer la hauteur des sons. Voilà, donc plein de petites pièces de bois et de touches, donc une touche par note. Et voilà, c'est un instrument qui sur lequel on peut jouer sur 3,5 octaves, donc ça fait beaucoup de notes. Et puis une autre particularité, c'est la présence de cordes de résonance, des cordes sympathiques qui viennent vibrer quand on met en action les cordes mélodiques et du coup amplifier naturellement le son de l'instrument.
Et qu'est-ce qui vous a amené à cet instrument ?
Moi, j'étais violoniste. Voilà, j'avais une vingtaine d'années et j'ai entendu un jour un air de musique suédoise et voilà une musique qui m'a vraiment particulièrement touchée. J'ai acheté des disques et voilà, ça a confirmé cette première impression. Et puis au travers de ces musiques-là, j'ai découvert qu'ils avaient cet instrument fabuleux, le nickel harpa, et voilà, j'ai commencé à en jouer. Je suis partie là-bas pour l'étudier et puis c'était parti.
Il y a des maîtres qui vous ont marqué dans cet apprentissage?
Oui, des gens, des musiciens qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent de beaucoup m'inspirer, ouais. Ouais, des musiciens actuels hein, donc j'ai la chance de pouvoir toujours découvrir voilà leurs nouvelles propositions, leurs nouveaux disques donc ça c'est ouais, c'est une musique qui est très vivante en fait.
Et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette formation? Est-ce que par rapport à ce que vous avez peut-être pu avoir en France?
Je sais pas, c'est un type de musique, des rythmes, une manière d'agencer les notes entre elles, des particularités. On joue beaucoup sur les changements de mineur majeur. C'est jamais tout à fait clair. Un placement rythmique qui est assez particulier. Je sais pas, c'est un ensemble de choses. Moi, quand j'ai entendu ces musiques, je me suis dit, c'est mes musiques, quoi. C'est fait pour moi.
Avec nous et pour vous dans Résonance sur Radio G avec Octantrion. On parlait tout à l'heure un peu de cet univers magique, féerique. Voilà, comment on le perçoit et voilà, et d'où il vient en fait dans cette musique? Est-ce qu'on peut voilà le définir? Est-ce qu'il est comment dire universel pour tout le monde ou
Ben en fait, il suffit d'aller dans ces pays-là pour comprendre en fait la force de la nature et des éléments. Et je pense que cette musique, elle est énormément empreinte de cette force-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend les musiques, selon les régions d'où elles viennent, elles sont très différentes selon qu'elles viennent par exemple, du sud de la Suède avec des paysages qui sont très doux, des grands champs de culture, des vaches, ou qu'elles viennent des régions montagneuses assez ardues. En fait, elles sonnent très différemment et on sent le caractère de chacune de ces musiques et leur origine géographique en fait. Et je pense que toute la magie elle vient de là. C'est des pays où l'importance de la nature elle est omniprésente en fait. C'est elle qui dicte la vie des gens en fait.
Et dans cette musique, on parle beaucoup de symbolisme.
Mais
comment
oui.
Ça se traduit au-delà de la nature. Est-ce que voilà, il y a un sens un peu plus spirituel?
Ben après les cultures nordiques et toutes les mythologies qui sont associées, c'est très présent et c'est pas uniquement présent pour les quelques originaux qui s'y intéressent. En fait, je pense qu'il y a aujourd'hui hein, des types de croyances liées à ces univers mythologiques. En fait, la frontière entre le réel et le rêvé, l'imaginaire, elle est assez floue en fait. Et je pense que c'est tout ce qui fait l'intérêt de ces musiques et de la vie dans ces pays-là en fait.
Alors vous, on vous retrouve à la fois dans vos albums avec des compositions originales et des reprises. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous influence voilà dans cet acte de création?
Ben c'est un peu ça en fait. Moi je suis très proche de la nature. J'adore jardiner, mettre les mains dans la terre, rêvasser au milieu du potager. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'inspirations qui me viennent aussi de longues balades avec Gaëlic. C'est vrai qu'on est assez sportif. On aime beaucoup. Se balader autant en forêt qu'en bord de mer et je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration qui viennent de ces moments de balade et de rêvasserie quoi.
Et tout à l'heure vous parliez aussi d'un mélange d'autres styles comme le rock. Ça, c'est
voilà,
plutôt l'aspect de Gaëlic, c'est ça plutôt.
Oui, l'aspect de Gaëlic et puis les choses forcément dont on s'inspire, soit qui ont marqué notre enfance ou soit les choses qu'on continue de découvrir aujourd'hui. En fait, on ne cesse d'évoluer musicalement de par aussi les rencontres avec d'autres musiciens, mais aussi d'autres types de musique.
Alors pour voir un peu tout ça, on va écouter un extrait de Chaman. Thank you. Alors, qu'est-ce que cette musique évoque ?
Elle évoque les grands espaces, mais montagneux, le vol d'un corbeau au-dessus de cette nature omniprésente, et puis en même temps un peu dure, quoi. Un peu aride, une nature qui peut oui être de dangereuse.
Et chaman, c'est lié au chaman qu'on connaît ou il y a un autre sens?
Non, c'est dû au chaman qu'on connaît, mais en fait ce titre, c'est un regroupement de plusieurs plusieurs morceaux qu'on a composés, voilà, là qu'on a remixé ensemble pour créer ce titre chaman qui va avec un clip qu'on a fait.
Et est-ce que dans cette culture nordique, le chamanisme, voilà, on en parle?
Oui, on en parle. Il y a une tradition pagane, hein, qui est très liée à ces croyances, ces invocations, justement des forces de la nature, avec souvent accompagnées par des chants au tambour, des incantations comme ça. Oui, c'est une culture qui a été très présente. Je dis qui a été parce que voilà, c'est des peuples qui ont été forcés à la christianisation à l'époque médiévale, alors que eux, ils avaient une richesse de croyances avec voilà toutes sortes de dieux, chacun étant justement souvent lié à un élément, et voilà, ils ont été christianisés, donc c'est une culture qui s'est peut-être un peu délitée à cause de ça, mais le paganisme faisait vraiment partie de la culture scandinave.
Quelle est la place de la voix dans cette culture ? Parce qu'on entend quand même beaucoup beaucoup de voix dans vos morceaux.
Oui, c'est une place très importante. Les chants populaires sont très présentes. Les enfants encore aujourd'hui, hein, à l'école, ils chantent beaucoup, et c'est des chants à plusieurs voix. C'est un peuple qui aime beaucoup chanter, peut-être voilà, je sais pas, dû au veillée où les gens se retrouvaient. Mais on avait aussi ça en France, mais c'est vrai que c'est une culture, je pense, qui s'est beaucoup perdue en France. En Scandinavie, le chant est très important. Il y a des chants magnifiques, une manière de chanter aussi très particulière. Il y a les chants pour appeler les animaux aussi. Voilà, donc c'est une culture très vivante.
Cet extrait chaman s'inscrit dans l'album 2.
Oui.
Est-ce qu'on peut savoir un peu plus cet album, dans quelle optique il a été fait?
Eh ben, il a été fait justement. On est parti de cette figure tutélaire du corbeau, le corbeau très présent dans le animal totem de la mythologie nordique, animal fétiche du dieu Odin. Odin qui avait deux corbeaux, Huginn et Muninn, et donc on est parti de cette image-là. Nous, c'est un animal qu'on aime beaucoup. Et voilà, on a construit autour de cet univers. On s'est basé sur quelques airs traditionnels qui faisaient référence, pareil, à des personnages mythologiques. Et puis on a composé autour de cette figure totémique du corbeau.
Est-ce que le corbeau, il porte vraiment malheur dans la culture nordique ?
Pas du tout. Mais pas du tout. Justement, en fait, c'est le christianisme qui a totalement inversé le rôle de cet animal. Mais c'est un animal qui était très important. C'était l'animal qui faisait la jonction entre les vivants et les morts. D'ailleurs, on parle souvent d'un corbeau blanc. En fait, c'est le christianisme qui l'a rendu noir et maléfique. Mais Mais c'était un animal très intelligent. On dit que pour le duodin, c'était sa pensée et sa mémoire. Ces deux corbeaux, l'un était sa pensée, l'autre sa mémoire. C'était des animaux qui étaient vraiment au panthéon. Voilà, donc c'est fou en fait comme les choses évoluent justement de croyances à d'autres. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a été totalement mis à l'écart à l'arrivée du christianisme.
Aujourd'hui, on a une nouvelle vision du corbeau avec vous.
Voilà.
Voilà, on change les croyances, hop, 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 et c'est fait.
Exactement.
Et au final, dans tout ça, dans vos projets, dans votre musique, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre?
Bah, on souhaite faire découvrir un univers, voilà, qui est l'univers scandinave mêlé au nôtre personnel, faire découvrir des instruments. C'est vrai qu'on aime beaucoup. Pour nous, souvent quand on compose, c'est souvent très imagé et les gens nous le disent beaucoup que c'est une musique qui invite vraiment à des films intérieurs et ça c'est quelque chose qu'on aimerait aussi beaucoup développer qu'on fait un petit peu au travers de musique de jeux vidéo de films d'animation et ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer qui nous intéresse vraiment quoi.
Et pour finir, voilà, l'émission s'appelle Résonance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot résonance?
Alors, ben, mon instrument, c'est un instrument qui est full résonance avec ses résonances sympathiques et voilà, qui a une richesse de son même une fois que l'archet quitte la corde, tout ce qui se passe derrière, tous les sons qu'on entend et qui continuent de vivre, voilà, c'est la pleine résonance et puis avec le plaisir que ça procure, justement quand ça vibre contre le corps, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà.
Très bien. Bah, merci Éléonore Billy pour ce partage.
Avec plaisir.
On vous écoute sur toutes les plateformes et on vous retrouve sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à très bientôt.